Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours en direct. Aujourd'hui, Laurent Magnien, qui est consultant et secteur aéronautique et tourisme. Nous sommes avec l'avocate Sarah Salman, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, le docteur Ludovic Toro, le maire de Coubron, en Seine-Saint-Denis, et de la partie aussi. Vous avez raté les Grandes Gueules ce matin depuis 9h. Ça peut arriver, vous avez sûrement de très bonnes excuses, c'est normal, il y a les vacances. Où vous travaillez.
Vous dormez.
Vous revenez. Dormez, après une nuit agitée. Voilà. Ça, on peut comprendre.
Après une nuit chez Castel. Ah non, c'est fermé.
Vous avez
après un McDo
dans une boîte à Cannes ou à Saint-Trope, bien sûr. Vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Et comme ça, vous rattrapez les lives. Vous avez aussi toutes les vidéos qui sont postées par notre community manager Alexandra sur le compte Twitter des GG notamment. Tout à l'heure, Julien Oudoul, le député Rassemblement National, viendra discuter avec les GG, débattre avec les Grandes Gueules, nous parler de ce qui se pense, de ce qui passe, de ce qu'il pense de ce futur grand débat à l'Assemblée Nationale.
Et il revient de vacances.
À la rentrée prochaine, tu as raison. Grand débat sur l'immigration. Et puis on reparlera de l'imam Iqiyoussen, bien sûr. En attendant, on a un GG cet match.
RMC. GG 7 et match.
Les États-Unis ont déclaré une urgence de santé publique pour l'épidémie de variole du singe. C'est une décision qui doit permettre de débloquer des fonds, faciliter la collecte de données, déployer davantage d'effectifs pour lutter contre la maladie et avancer notamment sur la vaccination. Le ministre de la Santé s'est rendu, lui, dans un centre de vaccination en milieu de semaine, mercredi, et il dit « la France est au point, la France a de quoi vacciner les populations cibles ». Il réfute le fait qu'on ne soit pas préparé et qu'on prenne, peut-être pas à la légère, mais un peu en deçà de ce qui est ce problème de la variole du singe. Écoutez justement Agnès Firmin-Lebaudeau, ministre déléguée à la Santé.
Je ne comprends pas ce procès d'intention sur le retard à l'allumage. La haute autorité donne un avis le 8 juillet sur la vaccination dès le 11 juillet, soit le lundi matin. Les ARS étaient en mesure de pouvoir commander des vaccins pour mettre en route la vaccination. L'objectif est de vacciner toutes les personnes qui souhaitent pouvoir l'être. N'oublions pas que nous sommes pas dans dans l'urgence pour la vaccination.
Justement, on a un GG7 et match avec un médecin et Kaouter Ben Mohamed. Le médecin, c'est le docteur Ludovic Toro, qui estime que là, au contraire, il faut se réveiller. Il y a urgence. 60 secondes pour le docteur Ludovic Toro, GG7 et match. C'est parti, Ludovic.
Je vais même pas essayer de vous convaincre, je vais vous informer. D'accord, c'est tout. Après, vous verrez ce que vous en pensez. Alors, je vais faire vite parce que c'est la variole du singe, mais il y a eu la variole. La variole, c'est une des plus grandes maladies qui a touché l'humanité, qui était là 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a eu plusieurs millions de morts jusqu'à quand qu'on découvre, en fait, le vaccin. En fait, le vaccin, c'est simple. On prenait un peu du pu et on mettait à un enfant pour qu'il se protège. Après, arrêtez le vaccin. La dernière fois qu'il y a eu de la variole en France, c'était en 1958 à Vannes au Morbihan, où un médecin est décédé. Et il avait dit une phrase très importante. Il avait dit, à cause de ces moyens de transport à travers le monde, il y aura plein d'épidémies dans notre pays. Et c'est ce qui s'est passé. On arrive à la variole du singe. La variole du singe, elle est assez récente. C'est en 1958 que dans un laboratoire, en fait, il y a un singe qui met avoir des boutons. On faisait des expérimentations et on trouve ce virus de la variole du singe. 10 ans après, arrivent les premiers cas humains qui sont au Congo, en Afrique. Il y a deux zones, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, avec deux variants différents et une mortalité qui peut aller de 1 à 10%. Ça reste en Afrique. Après, on arrive en France et vous l'avez là, bien que c'est arrivé déjà en Amérique il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a eu un cluster de variole du singe. La variole du singe, c'est quoi? C'est un virus qui est contagieux par l'air, par le toucher, par les fluides, et c'est un virus assez résistant à l'air. C'est-à-dire que sur un vêtement qui a été porté par quelqu'un qui est ça, vous pouvez l'attraper.
Pourquoi on doit s'inquiéter?
J'arrive.
T'as fini ton temps.
Pourquoi s'inquiéter? J'y vais. Les questions que je dois poser au gouvernement. Combien on a aujourd'hui de vaccins disponibles? Aucune réponse. Le seul laboratoire qui en fait, il est au Danemark. Il en fait 30 millions par an, et il y a déjà 10 millions qui ont été commandés par les États-Unis et un autre pays européen. Est-ce qu'on fait un traçage comme pour le Covid des gens qui ont eu cette maladie et pour savoir qui l'a? Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à tout ça. En fait, on est complètement en retard. Est-ce qu'on fait un séquençage? La réponse est non. On est exactement dans la situation du COVID il y a 2 ans. On lisait, ne vous inquiétez pas, il y a 70 contaminations aujourd'hui, 2800 personnes. C'est pas une maladie sexuellement transmissible. Ça touche les enfants et les femmes. J'aurais pu être plus long.
Alors.
Non, mais la peur n'évite pas le danger. On peut choisir de passer l'été à s'inquiéter, à s'agiter dans tous les sens. Moi, je pense que déjà, on va profiter de l'été. On verra à la rentrée, d'un point de vue purement pragmatique. Le Covid, on était là, oui, c'est très grave, c'est très grave. Ça l'est. Mais à part dire que c'est très grave, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que là, c'est ce qui se passe. On inquiète tout le monde et on ne propose pas de solution. Donc ça, c'est une difficulté. Ensuite, quand on propose le vaccin aux gens, on voit qu'il y a une partie minoritaire, certes, qui n'en veut pas. Donc, pour moi, tu peux inquiéter les gens autant que tu veux. Là, tout de suite, où est l'urgence absolue? Parce que ça, j'ai pas compris.
Alors, je vais répondre. Faux et faux. D'abord, première chose, on connaît même pas le nombre de vaccins. En fait, tu peux l'avoir demain si tu as été dormir dans un lit avec quelqu'un. Ce que je veux dire en médecine.
On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est circonscrit à une population, aux homosexuels, qui ont des rapports,
Mais là, c'est fini.
Alors, qui peut l'avoir concrètement?
Vous, demain, si vous touchez un objet qui a été touché par quelqu'un qui a eu cette maladie, c'est manu porté. Tout le monde peut l'avoir. Ça, c'est clair. C'est pas seulement la population homosexuelle. C'est une maladie qui n'est pas sexuellement transmissible. D'ailleurs, il y a un enfant qui est en Espagne et qui a exactement. Et en France, il y a des enfants qui ont cette maladie. On peut tous l'avoir. Et l'enfant est particulièrement sensible à cette maladie, au contraire de la Covid.
Bon, moi, ce que je veux
alarmer. Je veux juste qu'on fasse attention. Rappelez-vous l'erreur qu'on a fait sur le Covid, qu'au début, on disait, vous en faites pas. En Italie, c'est pas comme chez nous, ça va aller mieux. Je suis désolé aujourd'hui. On a une maladie. Surtout, n'oubliez pas un terme. La mutation.
Non mais pour la faire attention, mon cher Ludovic.
Aujourd'hui, attends, je finis. On a déjà la pandémie du HIV qui est là, la pandémie du Covid qui est là et l'épidémie de la variole du singe.
Oui.
Je pense qu'on doit y faire attention parce que nos hôpitaux ne pourront pas supporter une nouvelle épidémie, une nouvelle pandémie.
Pour y faire attention, on est dans la même équipe, mon cher. J'y suis venu
de bon cœur.
Non, pas de bon cœur parce qu'au départ j'étais pas très inquiète, mais après quand j'ai réfléchi, tout ça, etc. C'est-à-dire que pour faire attention, il faut avoir une campagne de communication qui t'informe en fait sur les risques. Voilà, moi en tant que citoyenne lambda et pas médecin, moi je suis assez étonnée. On sort pas. On est en train de sortir, mais on est encore dans une forme de pandémie qui a été mondiale et gravissime où le monde s'est arrêté de tourner. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de prévenir, alors que le monde sait. C'est pas moi, c'est le monde sait que. Parce qu'on voyage, il y a de plus en plus d'épidémies qui peuvent venir d'ailleurs et qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, encore une fois, nous ne sommes ni armés au niveau de l'hôpital public, ni armés en termes de connaissances, de communication pour pouvoir nous protéger. Moi, je ne peux pas me protéger d'un virus dont je ne sais pas ni comment on l'attrape, ni les conséquences sur moi, sur mes voisins, sur mon enfant, sur les personnes vulnérables. Qui est le plus sensible à ça? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'elles sont mortelles? Est-ce qu'on risque un handicap à vie? Est-ce que je vais être mentalement touché? On ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est les variants. Donc, il n'y a aucune communication. Donc, quand il n'y a pas de communication, les gens n'ont pas peur. Sauf que c'est pour ça que tu dis qu'on n'a pas peur. Mais moi, je trouve qu'on doit s'inquiéter parce qu'encore une fois, on sait qu'il va y avoir.
Non, et
il y
en a. Pour s'informer, c'est ce que tu dis.
Pour s'informer et pour si demain il y a une épidémie ou une pandémie, que l'hôpital soit prêt à nous accueillir et à nous soigner, qu'on soit pas tous obligés de mourir à chaque fois qu'il y a une épédémie qui apparaît.
Il y a 2300 cas aujourd'hui avérés.
Excuse-moi, j'ai pas fini. Le vaccin, depuis quand il existe? Parce que les gens, pourquoi ils ne sont pas vaccinés pendant le Covid? Déjà, j'en ai fait partie pendant la première vague parce qu'il n'y avait pas d'informations sur le vaccin. Donc, quand tu me dis que c'est une maladie qui existe depuis 1968, donc ça, moi, je comprends et je sous-comprends en tout cas qu'un vaccin existe depuis des décennies, qu'il est sécurisé et qu'on peut se vacciner en toute sécurité.
Oui.
Mais encore une fois, il n'y a aucune information, ni sur le tenant, ni sur les aboutissants, ni sur le mode de vaccin. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'on se vaccine une fois pour toujours? Est-ce que c'est tous les 4 mois? Mais c'est sur ça qu'on a besoin d'informations.
Je peux répondre à toutes ces questions. Le vaccin est uniquement fait dans un laboratoire qui pourra pas couvrir le monde. Il en fait 30 millions par an. C'est ça, truc. Il est efficace. En fait, c'est un vaccin contre la variole, pas contre la variole du singe. Il est efficace croisé à 85%, ce qui est pas mal. Il faut 2 rappels à 1 mois d'intervalle. Ça, c'est clair. La question que je pose aujourd'hui et qui est claire, qui est de la prévention, si des fois, parce qu'il faut toujours prévenir, y a-t-il assez de vaccins? C'est ma question. A-t-on commandé des vaccins à cette entreprise danoise? Alors, vous allez me dire, on peut pas avoir le chiffre. Vous savez pourquoi on peut pas avoir le chiffre de vaccins disponibles? Parce que c'est sous secret défense.
Ah bon?
Je vais vous dire pourquoi c'est secret défense. Parce que c'est secret défense militaire. Parce qu'on pense que la variole, c'est comme la guerre sous les bactériennes et virales, que si on envoie le virus qui a disparu sur une armée, il tue à 30% cette armée. D'accord? Et il la met à pied. Donc, en fait, les vaccins qu'on a aujourd'hui, c'est contre une attaque virale militaire. C'est pour ça que c'est sous secret défense. Mais je veux savoir combien il y en a aujourd'hui. Parce que si des fois, ça le fera peut-être pas. Mais aujourd'hui, il y a plus de 2000 cas, 70 contaminations, et il y a forcément certains qui vont en décéder.
Où sont ces 2000 cas? Sur quel territoire?
Pratiquement en région Île-de-France. D'accord. Majorité région Île-de-France à la moitié des cas.
Mais avec l'été, ça peut
proliférer.
Se propager.
Mais de toute façon, un virus, si vous le stoppez pas, il va se propager. Est-ce que vous avez vu un virus où on n'est pas vacciné qui se propage pas?
Quels sont les modes de transmission?
Les modes de transmission, je vous dis, c'est les gouttelettes dans la rue. Il y a le contact.
Ah bah, direct, il y a un médecin qui m'a dit que c'était pas les gouttelettes. Alors
mais c'est marqué partout. Excusez-moi.
Alors, mais tu vois là, le médecin.
Regardez-moi.
Non. Dire c'est pas les gouttelettes.
Si. Regardez-moi. Attendez. Vous prenez pas la tête quand vous avez plusieurs personnes. Vous allez chercher sur l'histoire du vaccin. Des virus, et vous verrez que c'est par les gouttelettes respiratoires, mais c'est vrai que c'est par les fluides aussi, et c'est par le contact direct. Voilà les trois modes de transmission de la variole du singe.
Là, si Alain Labbé, il peut me le transmettre?
Mais bien sûr.
Mais non.
Comment ça, non?
Parce que d'abord, je lui parle pas. Donc les gouttelettes.
Mais dites-moi, attendez. Et comment les enfants l'ont? Alors expliquez-moi si c'est pas les gouttelettes. Quand un enfant a ça, il y a pas de relation sexuelle. Donc il l'a eu par un moyen. Donc il y a forcément une transmission.
Pourquoi les femmes et les enfants sont plus sensibles à ce virus d'après ce que tu dis?
Alors parce que les plus vieux ont été vaccinés. Ça s'est arrêté en 1980, la vaccination contre la variole. Donc moi, j'ai été vacciné. Je connais pas ton âge, mais je pense
62,
que
t'es vacciné. Il l'a dit.
Mais il y a aussi un taux d'anticorps qui peut être donné par la femme aux enfants quand ils naissent. Mais l'enfant est ciblé, et d'ailleurs, c'est en Afrique, on a les chiffres, par rapport à cette maladie, au contraire de la Covid-19. Les décès aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi ils sont morts. Ils ont sûrement d'autres facteurs aggravants, mais ils sont quand même morts.
Alors, Laurent, toi, ça t'inquiète pas.
C'est pas que ça m'inquiète pas, c'est que je dis simplement.
Non,
je te lâche pas. Mais non, je te lâche pas. T'inquiète pas. D'habitude, j'ai très envie de te lâcher assez souvent, mais pas là. Mais il y a un avant et un après Covid-19. Faut quand même être sérieux.
C'est ça.
On a une planète là qui vient de s'envoyer en l'air sur le Covid-19. Bon. Donc on a, j'espère en tout cas, on en a tiré des leçons. On a des comportements. Demain, il faut réactiver des trucs. Je pense que ça ira trois fois plus vite.
Je suis pas sûr.
Je peux vous arrêter.
Il faut avoir les moyens humains et financiers de les activer.
Je peux répondre pour ça.
Ah oui, mais tu réponds à tout.
Oui, parce que c'est une erreur. Pourquoi on n'a pas réagi? Pourquoi on a remboursé ce test 2 mois après l'apparition de ce virus? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on aurait pu faire un décret dès le lendemain? T'as une croûte, tu te fais tester. Il a fallu 2 mois à la France pour rembourser ce test PCR pour la maladie. Je vous dis, on est en retard. Je veux dire, on est en retard comme pour la Covid.
David Dickens, qu'on salue, notre GG qui nous écoute là en ce moment, m'envoie un petit message en disant qu'un ami à lui venait de passer 6 jours dans le coma avec un pronostic vital engagé. Mais il a dit qu'il y a surtout eu une prise en charge déplorable. Donc il dit, on n'est pas prêt si jamais...
Il a raison, David a raison.
De manière exponentielle. Dans un instant, Nathan, avec nous au 32-16. Gérald, aussi pour parler de la variole du singe, c'est le docteur Taureau qui nous alerte. On doit s'inquiéter, dit-il, on doit s'inquiéter au nom de la prévention
c'est
et de
la
l'information. Qu'est-ce que vous en pensez? On regarde vite fait la consultation, là on est à la mi-temps, voir où vous en êtes, ce que vous ressentez à propos de cette variole du singe. Non, vous n'êtes pas inquiet, c'est un 85%, vous êtes plutôt tranquille vis-à-vis de cette variole du singe.
Et
on continue d'en parler avec
le Covid aussi, personne n'était inquiet.
D'abord, changer le nom.
RMC, 9h midi.
Les Grandes Gueules.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules. On parle de la variole du singe dans ce GG 7 image. C'est Ludovic Taureau qui a choisi de nous alerter en disant on doit s'inquiéter au nom de l'information, au nom de la prévention, au nom de, bref, de la transparence. Et puis on a Laurent Magnin et Sarah Salman qui, écoutez, on en est, c'est pas le Covid, relativisons quand même les choses. On a compris, on a appris de la crise et on n'est pas dans le même phénomène de maladie. Nathan, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nathan.
Bonjour Nathan.
Vous êtes dans le camp oui, on doit s'inquiéter ou non, on relativise?
Qu'il faut s'inquiéter, et ce que j'aimerais dénoncer, c'est surtout la prise en charge très maladroite des malades.
Pourquoi?
Je vous explique mon cas. Moi, j'étais en Espagne il y a environ 2 semaines. Donc, je pense avoir attrapé la variole durant ces jours-là. Il faut savoir qu'en Espagne, c'est 45% des cas qui sont détectés en Europe proviennent d'Espagne. Donc, je suis rentré d'Espagne. Une semaine après, j'ai un bouton qui est apparu sur le sexe. vraiment un petit bouton. Je pensais que c'était un bouton d'acné, comme je peux avoir sur le visage ou sur le torse. Je ne me suis pas inquiété. J'ai quand même fait un test IST pour voir si l'ensemble était bon. Tout était négatif. Le bouton a commencé à grandir, à mûrir. J'ai fait un visio avec un docteur qui m'a dit que c'était juste un bouton d'insecte, rien de grave. Il m'a redemandé de faire des tests IST. J'ai refait les tests IST, tout était négatif. Le bouton a continué d'augmenter, donc j'ai refait une deuxième visio. Là, on m'a dit de refaire des examens IST. Je ne les ai pas faits. J'ai fait une visite dans un bureau médical en physique. Là, pareil, le médecin m'a dit qu'il fallait juste attendre. Personne n'a parlé de variole, mais moi, quand je leur parlais de la variole du singe, ils me disaient « mais non, c'est pas ça, t'inquiète pas ». Et là, le samedi, ça a vraiment empiré, poussé de boutons partout sur le sexe, sur le corps. Juste pour vous dire, pendant que mon sexe a quadruplé de taille. Et donc là, j'ai pris peur. J'étais à l'hôpital de
Sevran. Avec des bubons. 93.
Pardon ?
Avec à cause des bubons, des boutons, c'est ça de l'infection. Ouais.
Exactement. Ah bah, il y avait un espèce de gros œdème. Donc j'ai pris peur. À 1h du matin, j'ai été à l'hôpital de Sevran Bedotte. Et là, lorsque je leur ai expliqué que c'était peut-être la variole, voilà, on m'a mis en quarantaine de 1h du matin à 16h30. Aucun médecin n'est venu me voir. J'étais en short dans une salle avec la clim, pas de couverture, pas de nourriture, pas d'eau. On m'avait juste mis une voie pour me faire une perfusion. Et voilà, à 16h30, je sortais de la salle pour demander où est-ce qu'on en était. Et j'entendais les infirmiers et les aides-soignants, enfin le camp médical, dire « moi, je ne m'occupe pas de lui, il a peut-être la variole, je ne sais pas quoi faire, attendons la... »
Attends, cet exemple est terrible, mais pourquoi tu dis bah évidemment
Personne ne connaît cette maladie. C'est-à-dire que pas un soignant, ni moi parce que j'étais me renseigner, mais qui connaît cette maladie en France, elle n'a jamais eu lieu. Donc évidemment qu'on n'est pas prêt.
En fait,
et son témoignage, mais et le plus parlant, je comprends les 85% là, mais écoutez ce qu'il vient de dire, d'accord?
Exactement.
Ça peut tous vous arriver. Vous dis encore une fois qu'on n'est pas prêt. Je ne sais pas si ça va progresser ou pas.
Nathan,
en termes de médecine, c'est la prévention. Ce témoignage nous prouve qu'on n'est pas prêt.
Nathan, comment vous l'avez attrapé?
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce que vous savez comment vous l'avez attrapé? Combien de temps ça a été détecté après? Et je suppose que vous avez vu des personnes, donc potentiellement vous avez aussi contaminé des gens autour de vous.
Oui, comment je l'ai attrapé, je ne sais pas vraiment. Moi, j'ai été à Malaga en Espagne. Bon, je suis jeune, je me suis amusé, j'étais en boîte, j'ai eu un plan d'un soir.
Un plan d'un soir homo?
Oui. Oui.
Non protégé.
Non protégé avec partenaire multiple ensuite. Enfin,
protégé. Oui, bien sûr protégé, mais en fait, il suffit juste de rouler.
Voilà.
Entre guillemets, et voilà, c'est foutu. Il suffit de danser à côté de quelqu'un qui est.
Vous avez eu un rapport sexuel ou c'était vous
protégé,
êtes
protégé, protégé. Sexuel, protégé.
Oui, non mais tout le temps.
Oui, oui. Oui, c'était non juste pour la fellation, c'était pas protégé.
Voilà. Ah ouais, voilà.
Puisque Nathan est là pour nous dire exactement ce qu'il a et sa maladie et nous alerter, autant dire les choses, les choses franchement, quoi. Voilà.
Oui, exactement.
Voilà. Donc vous mettez en garde parce qu'on dit que c'est circonscrit à la communauté homosexuelle, Nathan.
Oui, mais pas forcément. Dans mon entourage, il y a aussi des jeunes filles qui sont hétéros qui l'ont attrapé. Parce qu'il suffit. On dit que c'est dans la communauté homosexuelle, oui, mais lorsqu'on va en soirée gay, il n'y a pas que des gays. Il y a aussi des hommes hétéros, des femmes hétéros. Donc voilà, c'est peut-être plus poussé chez les LGBT, mais pas que. Et je tenais à dire aussi que la seule personne qui s'est plus ou moins occupée de moi à l'hôpital, qui est venue me voir, me soutenir, on va dire moralement, c'était un infirmier qui était LGBT.
Ouais, sinon, d'accord. Les autres vous ont mis sur le côté, quoi. En fait, ils vous ont un peu méprisé, quoi.
C'est ça. Mais par contre, je tenais quand même à remercier le médecin que j'ai vu le vendredi, qui m'a rappelé le lundi soir. Pour justement me dire qu'il avait échangé avec des collègues et qu'il pensait que c'était la variole. Et il m'a conseillé d'aller à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour faire le diagnostic. Et donc, lundi, j'y ai été. Là, le médecin a dit qu'il y avait zéro doute.
D'accord. Non, mais vous vous rendez compte? Je crois qu'il y a 3 semaines qui sont passées avant une prise en charge, c'est ça, Nathan?
Pardon?
Il y a eu 3 semaines qui se sont écoulées avant une prise en charge.
2 semaines, ouais.
Entre 2 et 3 semaines. Vous travaillez?
Oui, je travaille.
Vous faites quoi comme travail si c'est pas...
Je suis dans le marketing.
Donc, marketing. Donc, vous voyez du monde. Moi, c'est là où je m'inquiète, mon cher Laurent et ma chère Sarah. C'est là où je m'inquiète parce que c'est une maladie. Quand on lui a fait les tests, quand il est parti immédiatement se faire tester, il avait un bouton. On est dans un pays où alors qu'on est
en alerte sur la variole du singe, on ne te teste même pas alors que tu as les symptômes. Donc c'est la première inquiétude. Ensuite, le gars continue à s'inquiéter, continue à consulter, et il y a une prise en charge effective qui arrive plus de 2 semaines après avoir... Pas après avoir été contaminé. 2 semaines après l'apparition du premier bouton. Donc moi, je m'inquiète parce que ce monsieur, potentiellement, il a contaminé, sans le savoir, des tas de personnes autour de lui et peut-être des personnes qui sont encore plus vulnérables et pour qui ça peut être fatal ou il peut y avoir peut-être des conséquences qui sont irrémédiables.
Bon, je commence un petit peu à m'inquiéter.
Mais
alors.
Si vous voulez, ce que tu as dit est important et le témoignage le dit. On n'est pas prêt. Il a fallu 2 semaines... L'apparition du symptôme et le diagnostic.
Oui.
Ça veut dire que pendant 2 semaines, et c'est pas de sa faute du tout, parce qu'on lui a dit que t'avais rien, que t'avais pas la variole. Donc, moralité, la vue des autres. Et vu, comme je vous ai expliqué.
En fait, en période estivale.
Mais, c'est bingo!
Où on s'amuse, où c'est propice aux rencontres.
Mais voilà!
Rencontre d'un soir, où on profite de la vie.
Mais au-delà de ça, une rencontre familiale. Je m'excuse. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il sera pas touché par la variole du singe. C'est impossible. Sauf qu'on est...
Et le gouvernement veut minimiser, là.
Mais,
quand je dis ça, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on est sorti dans les esprits. Et je remercie Nathan de sa sincérité.
Merci Nathan.
Surtout qu'il se rétablisse. On est sorti du Covid, on en avait plein la tête.
Oui.
D'accord. Et là, on se dit non, on va pas nous en mettre plein la tête avec la variole du singe. Alors, soit on le fait de manière mesurée, pondérée, mais informative.
Et on le fait pas.
Mais on le fait pas du tout.
On le fait pas, on n'est pas prêt. Il y a quand même des, c'est pas une supposition. Il y a des malades. Nathan a témoigné. Il a peut-être pas dit la douleur de ses pustules. C'est douleureux.
On a des photos d'ailleurs, parce que tu nous as
donné. Je suis hyper inquiète là d'un coup.
Mon fils doit partir
en camp la semaine prochaine avec des animateurs qui reviennent de l'étranger. Franchement, du coup,
Attends, je voudrais qu'on montre une photo. Permettez une photo que nous a donnée Ludovic Thoreau de la variole du singe. Voilà, et des pustules qui apparaissent à la fois sur le torse, sur les mains, et ça soigne. Alors, comment ça soigne facilement ou pas?
Il y a des antiviraux qu'on peut donner, mais est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui? Je suis pas sûr, parce qu'on même pas le diagnostic. Mais il y a quelques antiviraux qui peuvent freiner, comme toutes les maladies virales. Alors, la plupart du temps, ça guérit. D'accord, la plupart du temps, ça guérit. Néanmoins, comme toutes les maladies et la grippe, il y a des gens plus fragiles, mais là, les enfants notamment, qui peuvent en décéder. Le taux de mort en Afrique va de 1 à 10%. Pourquoi? Parce qu'en fait, on meurt surtout d'une surinfection, pas forcément du virus. Donc, quand on est bien traité, théoriquement, mais est-ce que les hôpitaux sont prêts à avoir cet afflux? C'est la question qu'on se pose. Et le témoignage qu'on vient d'avoir là est criant et parlant.
Nathan nous a dit effectivement, les infirmiers, les médecins, personne n'était au courant. Voilà. On l'a mis sur le côté avec la peur de le traiter, d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'il nous a dit.
Parce que quand vous connaissez pas quelque chose, même si vous êtes soignant, vous avez peur.
Gérald est avec nous. Bonjour, Gérald.
Bonjour.
Donc, vous avez écouté les arguments, vous avez écouté le témoignage de Nathan. Alors, vous êtes dans le camp. On s'inquiète ou pas?
C'est vrai que pour Nathan, c'est bien dommage ce qui lui est arrivé. Après, je suis plus inquiet par rapport à la gérance de nos hôpitaux aujourd'hui, avec le manque de personnel et la manière dont on peut soigner les Français. Je pense que c'est ça le souci qui est arrivé à ce pauvre Nathan. Moi, je suis plus inquiet en fait des restrictions prochaines que l'on va mettre, en fait, des mêmes restrictions qu'il y avait eu sur le Covid. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas vaccinées seront considérées comme des parias, et en fait on va tomber sur exactement le même scénario qui s'est passé sur les 2 dernières années. On va faire peur aux gens, hein, c'est l'idée, c'est ça. Hein. Donc on va faire peur aux gens. Au mois de septembre, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Décembre, et dès l'année prochaine, c'est parti. Et on va remettre en fait finalement peut-être encore des passes. On va mettre des restrictions à tout ça. Voilà, moi c'est plus ça qui me fait peur. Si vous m'obligez à me vacciner pour un produit encore, enfin un virus qui est là et qui peut se soigner, qui peut être traité, etc. Encore une fois, ça va repartir dans les débats, les mêmes débats que vous aviez avec le Covid. Et vous verrez, c'est ça qui va se passer, c'est que la variole du singe, pour l'instant, on doit être, je sais pas combien de cas en Europe, je crois 5 000 à peu près dans le monde, et après ça va monter à 10 000, à 20 000, après 20 millions, et voilà.
Gérald, contradictoire
ce que vous dites quand même.
Gérald, vous avez écrit tout le scénario. Ça va exploser, on va avoir les passes sanitaires.
C'est ça.
Et tout ça est en train de se mettre en place.
On se rappelle en janvier, vous verrez que ça arrivera. Évidemment. Chiche. Vous verrez que ça,
on se rappelle. Moi, je vous oublie du sou. Je vous dis même, on se rappelle en octobre et ça n'arrivera pas. Si moi, je vous prends un pari.
Moi, je pense que c'est pas dans l'intérêt du gouvernement de tout remettre sur cloche. Ouais. Ça, ça, franchement, il y a déjà assez de tensions dans le pays.
Il est impossible.
Jamais ils prendront ces directives parce que ça va péter autrement comme c'est pas permis. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de gérer bien l'hôpital, c'est de faire des campagnes de prévention sur comment ça chope, comment ça soigne. Est-ce qu'à part, moi je me pose des questions, est-ce qu'à part le vaccin, il y a un traitement préventif, notamment pour les enfants? Quelle protection, quand tu dis il faut se protéger, quelle protection, quelle mesure peut-on réellement prendre pour ne pas le choper? C'est ça qu'on veut.
Mais attendez, vous n'aurez plus de nouvelles restrictions parce que c'est psychologiquement impossible. Quelle que soit la maladie qui va arriver, des virus, vous verrez dans les 10 ou 20, 30 ans, vous en aurez plein. Ça sera la responsabilité de la personne de oui ou non se faire vacciner. On a testé ces deux ans qui ont été une catastrophe. Mmh. Et c'est un an de plus, ça partait en cacahuète, je vous le dis franchement. Donc c'est pas possible. L'homme n'est pas fait pour rester en prison s'il n'a pas commis de faute pendant deux ans. Il n'y aura plus du tout ces mesures. Néanmoins, ça n'empêche qu'on peut quand même en parler, informer et dire la vérité. Et le témoignage de Nathan me fait dire qu'on a eu raison peut-être de dire qu'il fallait quand même ouvrir un tout petit peu les yeux et surtout dire la vérité. Parce que les propos que j'entends, ça me fait penser aux propos de Madame Buzyn il y a deux ans.
Merci Gérald, merci Nathan d'avoir été vous aussi avec nous. On va regarder la fin de la consultation, ce qu'on a posé. Alors, Ludovic. Vraiment,
vous avez gagné,
nous a brossé un tableau précis de ses craintes. Ah, mais non, c'est bien. Un non. Les Français ne sont pas inquiets à 84.
Mais je pense que les Français en fait mettent des œillères et je les comprends parce que moi, ils avant d'avoir parlé avec Ludo, avec Ludovic, pardon, je voilà. Non, mais parce que t'as marre en fait. Tu te rends compte, ça fait 3 ans et demi qu'on est
dans la. Voilà.
Vous savez quoi? Les 84%, c'est « je veux plus de virus ».
C'est ça, ils en ont marre, en fait. Tu vois.
Je voulais pas qu'on ait informé, Gérald, parce que les 84%, je vais les avoir au téléphone et qu'ils me racontent un peu ce que c'est la variole du singe, et quels sont les chiffres, et comment on l'a.
Allez.
Ça, ils sont pas informés.
Dans un instant, on va revenir à la politique, à l'Assemblée nationale, à Gérald Darmanin, au grand débat sur l'immigration, à l'imam Kioussen, avec qui? Avec Julien Oudou, le député Rassemblement National de Lyon.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, avec aujourd'hui le docteur Ludovic Toro, le maire de Coubron en Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec Laurent Magnien, consultant secteur aérien et tourisme, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Et nous sommes avec Sarah Saldman, l'avocate. Et il est l'heure d'accueillir notre invité.
RMC, les grandes gueules.
Julien Oudoul, député Rassemblement National de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
L'imam Kioussen est toujours sur notre territoire pour le moment. Vous attendez avec impatience qu'on le renvoie.
On ne sait pas où il est. Il a juste reçu une convocation de Monsieur Darmanin. Et c'est vrai qu'entre la convocation et l'expulsion, bah souvent il y a beaucoup de jours et il y a un gouffre. Nous, on attend clairement qu'il soit expulsé, qu'il reparte au Maroc. Et on va suivre ça de très près. Et on va demander à Monsieur Darmanin tous les jours où en est le dossier Kioussen.
Mais vous trouvez pas un peu bizarre cette histoire quand même, parce que ça fait
il reparte au Maroc,
s'il part. Non mais ça fait 20 pareil. Ans qu'il sévit et puis là d'un coup il y a une urgence à le foutre dehors.
Mais c'est tout le problème de ce gouvernement, c'est-à-dire que aujourd'hui monsieur Darmanin s'inquiète du cas de monsieur Kioussen. Nous ça fait depuis 2016 qu'on dénonce les vidéos sur YouTube, qu'on dénonce les propos antisémites et homophobes. Cette personne a pu se répandre dans toutes les mosquées de France, a pu organiser des conférences, a pu tranquillement, en toute impunité, jamais on est venu le chercher. Et aujourd'hui, il y a Monsieur Darmanin qui se réveille. Mais il ne s'agit pas d'une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'imams radicaux qui doivent être expulsés. Et on voit que Monsieur Darmanin.
On a vu qu'il y a des groupes de mosquées d'ailleurs qui ont signé des communiqués de soutien à l'imam.
17 sur 2006.
Mais comme les députés de la France Insoumise, comme Monsieur Guiraud, le député de Roubaix, qui vient au secours d'Hassan Kioussen, comme Rokhaya Diallo, qui j'ai vu des tweets mais hallucinants de Rokhaya Diallo.
Sont en fait, des complices. Mais ils cautionnent les propos de
complices. Bien sûr, sont des complices. En fait, ce sont les avocats de Monsieur Kioussen et donc de l'islamisme et des propos qui sont absolument abjects dans une démocratie telle que la nôtre.
Sont les complices de l'islamisme, vous dites.
Mais évidemment, nous avons aujourd'hui une frange de l'extrême gauche qui est totalement dans la roue de l'islamisme parce qu'il y a une partie de son électorat qui est islamiste, il faut bien le dire. Voilà, dans les territoires.
Être musulman, ça ne veut pas dire être islamiste.
Je fais la distinction.
Voilà.
Je fais la distinction. J'espère. Je l'ai toujours fait, vous savez. Voilà. D'ailleurs, on ne parle pas de musulman, on parle de français de confession musulmane.
Exactement.
Être musulman, c'est une opinion religieuse.
C'est une religion.
Et tout
une
à
religion.
Fait respectable, qu'il faut respecter, la liberté de culte, etc. L'idéologie islamiste, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est placer la charia donc au-dessus des lois de la République, avec des dogmes, avec des pratiques qui sont totalement contraires au vivre en France.
Il est important de rappeler que les premières victimes de la charia et de l'islamisme sont des musulmans à travers le monde et pas qu'en France.
Oui, moi, voilà. Moi je parle de la France.
Voilà, mais aussi en France. En France. Je veux dire, on ne fait
bien
pas
sûr,
exception.
Mais vous savez, en France, ce sont surtout les Français qui pâtissent et qui souffrent du développement de l'islamisme.
Oui,
et notamment les Françaises. Et notamment les Françaises.
Mais donc il fait un coup politique, Gérald Darmanin, là ?
Oui, mais Monsieur Darmanin, donc sur le volet sécuritaire comme sur le volet migratoire et de la lutte contre l'islamisme, aujourd'hui dans la communication permanente, voilà, il y a rien derrière.
Quand on fout, pardon, quand on fout dehors.
Quand on veut foutre.
Pardon. Quand on lance une procédure d'expulsion d'un imam aux propos antisémites, homophobes, anti-républicains, on n'est pas dans la communication, on est dans l'action.
Oui, enfin c'est non, on est dans la communication parce qu'il n'est pas encore expulsé. Donc nous allons attendre. Et surtout, Monsieur Darmanin, il tombe pas, je dirais, de la veille. Je dirais, il a été nommé ministre il y a 3 ans, 4 ans. Donc il est aux responsabilités depuis longtemps. Il n'a rien fait sur le volet migratoire. Je rappelle qu'on a 400 000 personnes qui viennent chaque année sur notre territoire. Il n'a rien fait pour fermer les 440 mosquées radicales de notre pays. Il n'a rien fait pour expulser tous les
imams radicaux. Vous sentez ce chiffre de 440 ?
C'est ce que j'allais dire parce que...
C'est le chiffre des renseignements sur des mosquées, des lieux de culte qui sont référencés, qui sont suivis. Par,
mais
par
vous les avez, c'est chiffres officiels ?
Ah ben c'est les chiffres officiels, bien sûr. Ce qui,
on n'a pas les mêmes chiffres.
Moi j'ai 20%, je le sais, dans ma région Bourgogne-Franche-Comté, j'ai 20% de lieux de culte musulmans qui sont radicalisés.
Et ces chiffres sont
suivis.
Ces chiffres,
c'est le renseignement territorial.
Qui vous les donne ?
Bien sûr, enfin qui nous les donne, qui nous les... On les a notamment sur un certain nombre de dossiers.
Non, mais moi, je suis toujours surpris par les chiffres.
De mosquées qui sont
comme la délinquance
identifiée.
Non, mais c'est comme la délinquance avec les immigrés, puisque j'ai entendu que Marine Le Pen avait dit récemment, là, au mois de juin, que 97%, 95% des problématiques étaient liées aux immigrés. Est-ce qu'à un moment donné.
La délinquance
dans cette...
de rue.
Non, mais est-ce que dans cette société qui est la nôtre, hein, nous tous, est-ce qu'à un moment donné, sur ces foutus chiffres, on va s'entendre, c'est-à-dire que le débat des politiques par rapport aux chiffres, il peut pas y avoir de contestation sur les chiffres. Donc à un moment donné, il va falloir, parce que c'est pas sérieux. Je peux pas entendre, moi, je peux pas comprendre en tant que citoyen que quelqu'un du RN va nous dire que 97% des problèmes dans la rue sont liés à des immigrés, que le mec d'LFI va me dire ah mais non mais c'est pas vrai du tout. Ça m'intéresse plus en fait. Ce qui m'intéresse c'est comme en écologie, comme des trucs, c'est comme dans le médical,
mais
c'est la vérité.
Chiffres officiels du ministère de l'Intérieur.
Non mais être surveillé ne veut pas dire être radicalisé.
Si on prend quelques chiffres, parce que là vous contestez tous les chiffres.
Non, je conteste pas, je dis que chacun d'entre vous dans plein de partis politiques, vous vous pointez avec vos chiffres, ça fait 50 ans que ça dure, et que quand on va creuser, quand on fait du boulot derrière, et là c'est pas moi qui le fais, c'est des gens dont c'est le métier, on s'aperçoit que c'est quand même sacrément tordu, et dans le sens des intérêts, si vous voulez, c'est pas une histoire de droite,
si vous voulez, on oublie les chiffres.
C'est pas une histoire de droite gauche, c'est une histoire de dire aux citoyens, c'est une histoire de dire aux citoyens, on a des débats politiques sur des chiffres qui tiennent la route et qui sont béton. Bon, c'est tout. Je vais dire, à un moment donné,
on peut, si vous le voulez, éluder les chiffres. Il y a 23% d'étrangers dans nos prisons. C'est une réalité. Il y a notamment une surreprésentation des étrangers, des mineurs isolés dans les agressions sexuelles dans les transports parisiens. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. On peut, si on veut, éluder les chiffres. Mais il y a une réalité qui est vécue par tous les Français. Tous les Français savent, et notamment les Françaises particulièrement, que ce qui cause de l'insécurité dans l'espace public, dans les transports, en allant au travail, tous ceux qui harcèlent, tous ceux qui sont aujourd'hui dans le pourrissement du quotidien, sont de près ou de loin liés à l'immigration.
C'est une réalité.
Toutes
les affaires qui sont médiatisées sur les violences faites aux femmes, je suis désolée, ce ne sont pas des mineurs isolés ou des étrangers ou des personnes en situation irrégulière.
C'est que ce sont des personnes
connues. Quand nous sommes des femmes... Et j'en fais partie. Moi, j'ai été harcelée à mon travail. C'était pas par un mineur isolé, et c'était par quelqu'un de puissant et qui portait un nom bien français.
Mais
et j'ai dû quitter mon travail. Donc, en fait, les femmes, nous sommes harcelées dans la rue et au travail parce que nous sommes dans une société patriarcale par tous les gars qui ont un problème en fait en dessous de la ceinture. J'ai par tous les gars qui ont un problème en dessous de la ceinture. Et ça, c'est pas une question de religion ou d'éducation. C'est une question où tu as un problème avec ce qui se passe en dessous et tu veux à un moment donné avoir dans ton lit tout ce qui n'est pas
public,
à toi. Y compris dans l'espace public, il y a pas que des mecs sont mineurs isolés qui nous harcèlent dans la rue. Moi, je n'ai pas de voiture. À Paris, à Marseille et partout, je suis dans les transports en commun, dans les trains, dans les bus, dans les métros et à pied, et je ne me fais pas siffler que par des mecs qui s'appellent Mohamed. Faut arrêter de fantasmer à un moment donné. Et heureusement, parce que j'espère que mon corps plaît pas que au Mohamed.
Julien Audeux, non, et moi je suis étonné sur ces chiffres, justement des mosquées radicales, parce que à la rentrée, on vous a promis
et quand je dis on vous a promis, c'est à la représentation nationale, un grand débat, encore il y a l'adjectif grand débat sur l'immigration. Donc ce sera l'occasion de ressortir ces chiffres. Mais pourquoi un grand débat? Pourquoi ne pas appliquer la loi maintenant?
Merci.
Mais c'est ce que nous demandons, effectivement. À quoi servirait un grand débat pour perdre du temps? Le constat, nous le connaissons. Alors nous, effectivement, si M. Darmanin reprend nos propositions, on est très contents. Si tous les délinquants et criminels étrangers sont expulsés et qu'ils trouvent un petit peu de courage politique pour le faire, mais nous, nous nous satisfaisons de ça. Mais on voit bien qu'avec ce gouvernement, on enchaîne les grands débats, comme M. Papendiaï qui veut organiser des grands débats dans tous les établissements scolaires. Mais on connaît les constats. Ça fait des années, ça fait 5 ans qu'ils sont au gouvernement. Je veux dire, pourquoi continuer des grands débats? On a eu le grand blabla après les gilets jaunes qui n'a servi à rien. On a un grand débat sur l'hôpital, sur l'éducation, sur la sécurité, sur l'immigration. Est-ce qu'on pourrait, dans l'action un petit peu, fort du constat qui est partagé, je pense, par une majorité de Français, et aujourd'hui, il y a une urgence sur tous les sujets.
Mais vous, vous aviez déjà alerté sur les vidéos YouTube?
Bien sûr, mais moi, dans,
dans
ma région, parce qu'il était venu en Bourgogne-Franche-Comté, moi, j'avais alerté dès 2018. Dès 2018, sur Hassan Iqiyoussen, sur ses, les ramifications dans la région. Bien sûr, exactement. Et on avait alerté depuis 2016 au niveau du parti pour dénoncer.
Bah, 30 millions de vues, c'est énorme.
30 millions de vues dans le monde, 30 millions de vues en France, mais arrêtez de dénoncer.
Mais même une, c'est trop.
Moi, je déteste qu'on donne plus de pouvoir à des gens qui n'en ont pas. 30 millions dans le monde, c'est pas 30 millions en France.
Bien sûr, mais Julien Doul.
Il tient des propos, mais
Sarah, si Iran vous rendez pas sur ce plateau, la première qui bute, c'est moi. Parce que je ne suis pas la musulmane qu'il faut. Donc je suis la cible. Les gens comme moi sont la cible.
Enfin, la juive, mais ça ne va peut-être pas passer non plus.
Mais
hein.
Je vous promets que c'est les musulmans.
En même temps, toutes les deux.
Voilà, si tu veux, voilà. Mais en tout cas.
On voudrait l'éviter, justement. C'est surtout ça, c'est faire de la prévention et d'éviter les discours
sauf
du haine.
Sauf qu'à un moment donné, je refuse qu'on donne à ces gens, à ce type de personnages, plus de pouvoir qu'ils en ont vraiment quand on rabâche aux Français.
Il a un
pouvoir médiatique. C'est pas 30 millions.
Attendez, on a un invité. Je voudrais qu'il réponde.
Il a un pouvoir médiatique, il a un pouvoir d'influence. Quand il va dans les mosquées, quand il se répand sur YouTube, mais il est vu par des millions de gens,
et des gens vulnérables,
et des jeunes, et des jeunes qui pensent que c'est le Coran, qui pensent que c'est la religion, qui pensent qu'il faut le suivre cette voie. Alors que quand on, encore une fois, quand on souhaite la mort des homosexuels, quand on s'en prend aux juifs, quand on est misogyne, ce n'est pas la voie à suivre effectivement pour la jeunesse, et c'est contraire à nos règles, contraire à nos lois, contraire à nos principes. Donc il est dangereux. Oui. Donc si on le laisse faire en disant « mais de toute façon c'est qu'une personne, il ne faut pas lui donner trop de pouvoir », on ne fait rien et on le laisse convertir un certain nombre d'adeptes qui ensuite pourront passer à l'acte. C'est ça le danger.
Ludovito.
Je ne suis pas du tout RN, néanmoins je suis un peu d'accord sur ce grand débat. Quelle fumisterie. Mais quelle fumisterie. Dans ce pays, depuis 5 ans, comme on ne solutionne rien, on se fait des débats. Des rapports. Et à la fin, il y a le grand Ségur de la santé. Elle est belle l'histoire. Regardez où on en est aujourd'hui. Ce grand débat, ça va aboutir à rien. Mais je m'excuse. On a bien fait des élections législatives. Quel est le représentant du peuple? C'est bien le député. Donc vous avez choisi votre député qui doit porter vos idées. Pourquoi c'est pas les députés qui font les lois et qu'on donne ça à des grands débats, à des grandes réunions?
Mais là, le débat, il sera au Parlement.
Mais oui, mais on va faire des lois
à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est justement ça, ce grand débat sur l'immigration. C'est de manière, ce que dit Darmanin, à passer à la vitesse supérieure.
Non, excusez-moi. Pour passer à la vitesse supérieure, appliquer les lois. Appliquer les lois qui sont déjà en vigueur et on pourra déjà avancer. Mais si on commence à discuter de quoi? Ok, il va y avoir des discussions. Mais les lois sont là. Elles sont votées. Elles sont dans le code pénal.
Mieux qu'un grand débat, Marine Le Pen avait proposé un grand référendum. Référendum sur l'immigration pour mettre fin au droit du sol. Référendum sur l'immigration pour expulser délinquants et criminels étrangers. Référendum pour couper les pompes aspirantes de l'immigration et pour instaurer la priorité nationale. Ça, ça aurait du sens.
Le droit du sol, les gens sont nés ici, ils n'ont pas immigré.
Je pense que les Français, aujourd'hui, n'en peuvent plus de l'immigration, à la fois d'un point de vue sécuritaire, ils le constatent tous les jours, mais aussi d'un point de vue social. On demande aux Français de se serrer la ceinture de plus en plus et en même temps, on gaspille des milliards d'euros dans l'immigration, une immigration qui ne nous rapporte rien, il faut bien le dire.
Mais
excusez-moi, on s'arrête. En termes d'économie,
il y a une immigration qui ne nous rapporte rien et au contraire qui coûte très cher. L'aide médicale d'État.
Les immigrations.
J'ai dit une immigration.
Quand vous dites droit du sol, moi je ne peux pas vous laisser dire ça.
Moi je suis née ici, ma mère est arrivée à 5 ans. Je suis née ici. Mon grand-père s'est battu pour la France. Les oncles de ma mère sont morts pour la France au front. La France, c'est mon pays. Et je suis devenue française parce que le droit du sol. Donc, je ne suis pas une immigrée et je deviens extrêmement en colère et peut-être des fois violente dans mes propos quand on me rabat encore, après 45 ans de vie dans ce pays, de cotisations, d'études, J'aime ce pays, c'est le mien. J'aime la Tunisie parce que c'est le pays de mes aïeux. Je suis partie le découvrir. Je suis partie découvrir les saveurs, les odeurs. D'où est parti mon grand-père? Quelle misère il a coûté? Pourquoi il est venu? Je me suis renseignée sur l'histoire de mes aïeux, mais je refuse qu'on me dise encore aujourd'hui que je ne suis pas française autant que vous, monsieur Oudou. Et le droit du sol, c'est un droit qui est fondamental. Nous sommes nés ici. Nous ne sommes pas des immigrés et nous sommes fatigués de l'entendre.
Non, mais attendez. Excusez-moi. La question, c'est pas de distinguer qui est bon français ou qui mérite de rester français. La question, c'est aujourd'hui que nous ne pouvons plus accueillir 400 000 personnes par an. C'est tout. Nous ne le pouvons plus parce que nous avons un système social qui est à bout de souffle. Nous ne le pouvons plus aussi parce qu'une partie de l'immigration génère de l'insécurité. C'est
une
un
partie.
Fait. Regardez dans les attaques au couteau ces derniers jours. C'était principalement notamment des demandeurs d'asile.
Qui représentent une infime partie de l'immigration.
Ils peuvent éventuellement créer des amalgames.
C'est pas des généralités. Je pense que les Français savent très bien faire la distinction. Et les Français sont un peuple généreux. Nous sommes peut-être le peuple le plus généreux du monde.
Parce que nous allons aussi beaucoup prendre, parce qu'il y a aussi une émigration économique. Parce que si on arrêtait d'aller piller les richesses en Afrique, parce que la colonisation physique a arrêté.
Ah non,
c'est la caricature. Les plus grands groupes industriels
exploitent l'Afrique. On va pas refaire le débat sur la colonisation.
C'est pas la colonisation. Je vous parle d'économie. Il y a des grands groupes qui exploitent la terre, les richesses en Afrique.
Et donc ça justifie d'avoir des violences ici.
Alors il nous reste 3 minutes, Julien Oudoul, à la rentrée. Il y a le rendez-vous du Rassemblement National aussi. Il y aura le congrès.
Oui.
Vous avez choisi votre candidat ?
Moi, j'ai choisi Jordan Bardella. J'ai choisi de le parrainer, de le soutenir, puisque je considère qu'on ne change pas un général qui était victorieux. On le maintient pour pouvoir gagner d'autres batailles. Il a fait preuve d'un talent tout au long de ces derniers mois, à la fois pour porter le parti à un score historique à la présidentielle avec Marine Le Pen, et puis à ses 89 députés. Nous lui devons une grande partie de ses victoires, donc il faut continuer avec lui. Je considère que c'est un symbole d'avenir, un symbole de compétence, et je pense que c'est le meilleur pour nous porter en 2027 à la victoire suprême.
D'accord, donc pour vous, c'est Bardella, président du Rassemblement National, et Bardella 2027.
Non, Bardella.
Non, mais je.
Et Madame Le Pen.
Vous savez, non, mais Marine Le Pen. C'est le mieux placé pour nous porter à la victoire en 2027.
À la tête du parti.
Ah oui, moi j'avais.
À la tête du parti.
Non, mais est-ce que vous souhaitez que ce soit même lui en 2027 après,
mais ça, on verra,
après les échecs de Marine Le Pen?
Il est encore trop tôt. Vous savez, Marine Le Pen,
Julien
Doux,
est-ce que vous souhaitez que 2027 soit la bannière Bardella à la présidence de la République?
Je souhaite que ce soit la bannière de la France, déjà.
Non, mais Marine,
je ne vais pas vous répondre alors que nous sommes à 5 ans de l'échéance présidentielle.
Vous avez une idée?
Aujourd'hui, nous avons une force
conviction.
Considérable.
Oui, non, mais est-ce que votre conviction, c'est que ce soit Jordan Bardella le mieux placé pour 2027?
Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une chance. Nous avons à la fois le mouvement présidé par Jordan Bardella, et j'espère qu'il le sera toujours dans quelques mois, et le groupe politique avec donc 89 députés.
D'accord.
Donc nous avons à la fois Marine, et qui est présidé par Marine Le Pen. Marine Le Pen décidera dans quelques années si elle décide de poursuivre. Et
est-ce
nous
que
verrons
vous pensez,
la situation
mais,
politique.
Mais vous, votre sentiment, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose qu'elle se représente en 2027?
Écoutez, il y a un lien quand même charnel entre le peuple français et Marine Le Pen. Et un lien d'ailleurs qu'on ne trouve chez aucun autre politique. Moi, je l'ai accueilli 3 fois dans mon département. Il y a quand même une fascination, il y a quand même une symbiose entre les catégories populaires, entre le peuple de France et Marine Le Pen. Et je pense que...
Dans symbiose avec Marine Le Pen.
Compte tenu de la progression qui est la nôtre, je pense que 2027 peut être celle de la victoire de Marine Le Pen.
Et au congrès du Rassemblement National, parce qu'il fêtera ses 50 ans en même temps. Est-ce que...
Pas en même temps.
C'est le 50e anniversaire du Rassemblement National, ex-Front National. Jean-Marie Le Pen doit y participer ou pas?
Non, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Jean-Marie Le Pen, c'est le Front National d'hier, et le congrès, ce sera le Front National de demain.
Oui, mais c'est les bases de la maison.
C'est fini.
J'ai une question fondamentale. J'ai 10 secondes. Je ne comprends pas votre discours tout à l'heure sur, et que j'ai trouvé correct, sur le fait de dire l'homophobie, tout ça est inacceptable. Comment vous pouvez expliquer que votre présidente ait des amitiés fortes avec des Viktor Orban ou des gens de l'extrême droite à l'échelon planétaire qui sont homophobes, qui cristallisent les sociétés? Je parle même pas de Trump et de son passage apocalyptique à la surface de la planète. Je ne comprends pas.
En 5 secondes.
Oui, 5 secondes.
Donc, et comment
j'aimerais
comment vous expliquer que monsieur Macron, qui défend justement la lutte contre l'homophobie reçoivent le prince héritier d'Arabie Saoudite ou encore une fois l'homosexualité passible de mort.
Ah mais je l'explique
Saoudite.
Pas non plus.
Comment vous l'expliquez?
Mais je suis assez d'accord.
Comment vous l'expliquez?
Comment vous expliquez
bah donc, qu'on organise la Coupe du Monde au Qatar et qu'on ait des relations extrêmement étroites avec le Qatar?
Finalement, vous renvoyez une relation qui pour vous n'est pas normale à une relation qui pour vous n'est pas normale.
Non, bah oui, mais si c'est votre réponse, c'est pas une réponse.
On ne partage pas tout du pouvoir de Monsieur Orban. En Hongrie, on partage notamment la défense de l'identité, la défense des frontières et d'une civilisation européenne.
Merci Julien Audoux.
Excusez-moi, je veux juste dire ça parce que c'est important que moi je le dise. Vous venez de la gauche, il faut le rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs. Vous avez un parcours qui est assez atypique.
Il avait 12 ans,
oui, mais il en a 17, on va dire, parce qu'il est encore jeune. Et je trouve très dommage que des gens qui soient aussi talentueux que vous soit dans ce parti-là. C'est le seul défaut que je vous reconnais aujourd'hui en direct.
C'est pas la seule qualité.
C'est une grande défaut.
Merci.
C'est un grand défaut.
Allez, passez un bon week-end et on se retrouve lundi à 9h pour une nouvelle session de Grande Gueule. Il y aura du rythme comme d'habitude.
RMC, 9h midi.
Les Grandes Gueules.
RMC, football. Samedi 4 mai à 15h, au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.